Alors, de tout ce passage, on va revenir sur trois personnages et un mot. Premier personnage, Belzéboul, évidemment. Donc, vous le savez probablement, hein, si on le traduisait de manière littérale, Belzéboul, ça voudrait dire seigneur du fumier. On trouve d'autres mentions qui sont seigneur des mouches, mais c'est plutôt seigneur du fumier, et on sous-entend que le fumier, c'est l'offrande qui est faite aux idoles. Mais en même temps, Belzéboul, c'est un nom assez surprenant dans le sens où il n'apparaît pas dans la littérature juive ancienne. Pourtant, il est ici bien cité, donc ça veut dire qu'il était connu. En tout cas, au temps de Jésus. Sur la question du chef des démons, est-ce qu'il faut le rapprocher de Satan ou pas, même si Jésus va parler de Satan, lui, un peu plus tard, on peut considérer que comme un chef a des... on avait parlé des légions, comme il y a différents grades dans les hiérarchies d'une légion, mais comme dans toute armée, il peut y avoir des chefs d'ordre différents. Mais finalement, c'est loin d'être le principal. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est que Jésus expulse les démons, au verset 20, par le doigt de Dieu. Alors pourquoi il les chasse par le doigt de Dieu et pas par la main de Dieu, par exemple? Et à nouveau, c'est symbolique, puisqu'on a déjà fait un petit peu de symbolique aujourd'hui. Et si la main va désigner la puissance, le doigt, c'est plutôt l'agilité. Et par l'agilité, il y a aussi le symbole de la création. Donc on voit que le doigt va désigner les deux choses-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça, dans la chapelle Sixtine, on voit le doigt de Dieu. Il est bien mis en avant, c'est pas toute la main qui est ouverte, il y a un doigt qui vient pour toucher le doigt de l'homme, donc soit le doigt de l'homme qui vient toucher celui de Dieu. Je laisserai aux exégètes de peinture le soin de le faire. Mais toujours est-il que le doigt de Dieu, symboliquement, c'est ça. L'agilité, donc la capacité de créer de Dieu. Donc chasser les démons par le doigt de Dieu, c'est aussi faire de l'homme une créature nouvelle. Et maintenant, deux personnages, puisque Jésus en parle. Jonas et la reine de Saba. Jonas, donc dans le livre éponyme, le livre du même nom, Jonas reçoit de Dieu une mission qui est celle de prêcher la pénitence pour les habitants de Ninive. C'est donc bien pour ça que Jésus parle aussi de la ville de Ninive. Et vous connaissez l'histoire, Jonas a peur, donc Jonas fuit, il va prendre un bateau, il y a une grosse tempête, tout le monde se dit Dieu est en colère, comment ça se fait? Il tire au sort en disant on va tirer au sort pour savoir qui nous porte la poisse, ça tombe sur Jonas, et Jonas dit bah oui en fait vous avez raison, c'est à cause de moi, balancez-moi par-dessus bord. Donc il le balance par-dessus bord, et il est avalé par un poisson. Il reste pendant 3 jours dans le ventre du poisson, à réciter les psaumes, jusqu'à être rejeté vivant sur le rivage. Et alors il va à Ninive, et il annonce, effectivement, le châtiment qui les attend, et il les invite à la pénitence, et à la fin il est même fâché. Parce que bah, il a tellement bien réussi qu'ils se sont tous convertis, il n'y a pas de châtiment, il en veut à Dieu de ne pas envoyer de châtiment. Ça, c'est la fin du récit. Mais toujours est-il que nous, ça va nous intéresser parce qu'on va se poser la question de qu'est-ce que le signe de Jonas, en fait, par rapport à Jésus. Et la reine de Saba, verset 31, lors du jugement, la reine de Saba se redressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. Le royaume de Saba, même si on ne sait pas exactement où il se situe, les hypothèses le situent plutôt vers le nord du Yémen. Enfin, le Yémen actuel, bien sûr. Donc ce serait plutôt par là. Donc c'est pas trop loin, mais il y a quand même une petite distance. Et surtout, ce que l'on sait de ce royaume, c'est qu'il est riche, il est prospère, il a beaucoup notamment d'aromates, il a de l'or. Et c'est le premier livre des rois et le deuxième livre des chroniques. Donc vous savez que, on en avait déjà parlé, je crois, il y a un et deux rois, un et deux Samuel, qui vont raconter l'histoire de la royauté d'Israël, et puis de manière plus tardive vont arriver les livres des chroniques, 1 et 2 chroniques. Et d'ailleurs, ils ne sont pas classés au même endroit. Quand on avait parlé du Tanakh, les écritures juives, Torah, Nevi'im, donc c'est-à-dire les prophètes et Ketuvim, les écrits, dans les livres des prophètes, vont se trouver ce que nous on appelle aussi les livres historiques, donc les livres des rois et les livres de Samuel. Mais, comme les chroniques c'est plus tardif, lui il est rangé chez les juifs dans les autres écrits. Et on voit bien qu'il y a des différences dans, c'est les mêmes rois, mais il y a une relecture qui est faite de ces rois-là. Donc là, comme on n'étudie pas Jonas, j'ai pas fait la reine de Saba, pardon, j'ai pas fait l'évolution de la perception de la reine de Saba entre les deux livres, mais c'est quelque chose qui serait intéressant à faire. Parce que ça veut dire que l'exil marque un tournant dans l'histoire du peuple hébreu, et donc il y a un avant et un après, et donc une vision différente des différents personnages. Bref, la reine de Saba, elle est présente dans les deux, et tous les deux vont rapporter que lors de cette visite, la reine de Saba arrive avec énormément de richesses, mais surtout elle fait quelque chose de particulier, elle pose trois énigmes à Salomon. Et donc Salomon, le roi le plus sage d'Israël. Et il va évidemment répondre, il va résoudre les trois énigmes. Et à partir de ce moment-là, la reine de Saba va lui accorder sa confiance. Elle était venue pourquoi ? C'est précisé dans le texte, parce que sa renommée était grande et le temple qu'il avait fait construire pour son Dieu était impressionnant. Et justement, une fois qu'il a répondu, elle lui dit, bien aux trois énigmes, elle lui dit « Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » Donc là, on est dans le premier livre des rois. Donc l'idée, elle est bien là. La reine de Saba, c'est celle qui est capable de reconnaître le Dieu d'Israël à travers le don de sagesse qu'il a fait à son représentant, qui est le roi Salomon. Et après, bah, lui donne 120 lingots d'or, des aromates, des pierres précieuses, etc. Et Salomon, lui, en échange, il lui offre tout ce qu'elle désire. Quelle largesse. Ce qu'il a donné après dans la littérature, et même il y a un film, il me semble, sur la reine de Saba. L'idée d'une relation entre Salomon et la reine de Saba, notamment avec deux choses. Ce verset, il lui donna tout ce qu'elle souhaitait, donc ce qui pourrait laisser penser qu'il était amoureux, et le fait que Salomon est aussi connu pour ses innombrables concubines. Et vous savez que c'est ce qui amène sa chute, puisqu'il finit par épouser les dieux de ses concubines. Bref, c'est fini pour la reine de Saba. Revenons sur Belzéboul. Si on suit la rhétorique des pharisiens, il y a une guerre civile qui existe au sein du camp de Satan. Jésus serait tout à fait partie prenante de cette guerre civile, puisqu'il est l'homme de main, et pas le doigt, en l'occurrence. Il serait l'homme de main de qui ? De Belzéboul, le seigneur du fumier. Mais nous, on sait que ce n'est pas possible. Parce que Jésus, juste avant la parabole du bon samaritain, on l'a dit, il a exulté de joie sous l'effet de l'Esprit Saint, et ce n'est pas le seigneur du fumier qu'il a loué. C'est le seigneur du ciel et de la terre. Et si, je le disais, la main est symbole de puissance, etc., là, en l'occurrence, lui, il va préciser que c'est avec le doigt de Dieu, donc dans l'idée d'une restauration ou d'une création qu'il agit. Donc non seulement les disciples et nous-mêmes les lecteurs, on sait très bien que ce que dénoncent les pharisiens est faux, mais plus encore, Jésus va démontrer dans une logique par l'absurde, parce qu'il va pousser le raisonnement jusqu'au bout, que l'idée des pharisiens elle manque de cohérence. Un royaume qui divisé contre lui-même ne peut pas tenir debout, c'est ce que Jésus va dire. Et là où Jésus va pousser encore plus loin, c'est qu'il ne va pas se contenter de cette logique par l'absurde pour montrer l'incohérence des pharisiens. Il va même dire, voilà, quand je chasse un démon, ça ne doit pas s'arrêter là. Et donc là, on revient aussi à la question qui était évoquée par rapport à Bethsaïde et Capharnaüm. Un miracle, c'est bien, mais le plus important, c'est la conversion. Et là, il dit la même chose. Le démon, il est chassé, très bien. Mais s'il n'y a pas la conversion, le démon revient. Et il revient avec sept autres démons. Encore le chiffre 7. Et donc là, il y a, aussitôt que Jésus va parler de la possibilité du retour des démons, il y a une nouvelle dialectique qui s'ouvre, qui est celle des ténèbres et de la lumière. Et c'est à ce moment-là que Jésus invite à déployer une lumière dans la maison intérieure, dans l'être profond de la personne. Parce que le démon, c'est celui qui va faire s'épaissir les ténèbres, parce qu'il se plaît dans les ténèbres, mais la lumière va le chasser. Donc, quelle est la lumière? Et bien là, il faut peut-être faire un lien avec le Notre Père qu'il vient d'enseigner. Que ton règne vienne, c'est donc la lumière du royaume, puisque Jésus voit Satan tomber du ciel comme l'éclair quand il envoie annoncer la venue de son règne. Donc le règne qui vient, c'est cette lumière qui chasse les ténèbres de Satan et des démons. Donc, il faut que la lumière règne au cœur de l'homme, donc que le règne de Dieu soit au cœur de l'homme. Et on l'a vu, l'un des moyens de faire régner Dieu, c'est la prière personnelle du Notre Père, puisqu'on souhaite la reconnaissance de ce royaume de Dieu. Et Jésus le dit tout à fait, ce que je viens de dire là, avec la question de l'œil. Cette fois, on est passé au verset 34. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand ton œil est limpide, ton corps tout entier est dans la lumière. Quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que l'œil doit être tourné vers le ciel. Parce que le ciel, c'est la source de toute lumière. Et c'est du ciel que vient la voix qui dit, lors de la transfiguration, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et si on écoute Jésus, eh bien on connaît la prière du Notre Père. Plus on avance là dans l'Évangile, on est quasiment à la moitié, chapitre 11, il y a 24 chapitres, plus on avance dans l'Évangile, plus on voit comment est-ce que tous les éléments qu'on a eus avant commencent à se lier les uns avec les autres. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais qu'on consacre juste un tout petit peu de temps, c'est quand même le signe de Jonas, je vous l'ai annoncé. Les foules attendent de Jésus un signe, très bien. Jésus, pourtant, il a déjà fait des miracles. Il vient même d'expulser un démon, au verset 14. Donc, théoriquement, ils ont eu leur signe. Mais ils veulent un signe, pas seulement des guérisons miraculeuses, ils veulent pas non plus simplement des exorcismes, ils veulent un grand signe, en fait. Un signe qui serait sans équivoque. Comme, par exemple, la manne de Moïse, ou la source qui sort du rocher de Moïse. On pense que c'est un signe comme ça qu'ils attendent, un truc qui est propre à Jésus. Donc ça veut dire que ce n'est pas la foi qui motive les foules. En fait, c'est une forme de, peut-être pas de scepticisme, mais de doute. Ils ne sont pas sûrs, donc ils veulent absolument un signe. Donc Jésus leur dit, vous n'aurez d'autre signe que le signe de Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui va caractériser le lien entre Jonas et le Christ, c'est justement le passage par la mort. Une mort symbolique pour Jonas, le ventre du poisson. Le poisson, il est dans l'eau, et on avait déjà dit que la mer, symboliquement, ça représente la mort. Donc pendant 3 jours, Jonas va être dans le ventre du poisson, et il va être ensuite recraché. Donc il revient à la vie, et c'est à ce moment-là, une fois qu'il est passé de la mort à la vie, qu'il va aller à Ninive. Or, Jésus le dit, Jonas était un signe pour les habitants de Ninive. Donc ça veut dire que Ninive arrive après le passage de la mort à la vie. Donc le signe qui est annoncé pour cette génération, c'est le passage de la mort à la résurrection. Et donc Jésus est bien en train de dire que le véritable signe, il n'arrivera qu'après. Alors pourtant, il y a tous ces signes-là qui sont donnés. Mais eux, ils ne pourraient se convertir qu'à partir de ce moment-là. Voilà le signe qu'ils auront. Et si on veut pousser le parallèle, si Jonas récite les psaumes dans le ventre du poisson, on sait que Jésus récite au moins un psaume sur la croix. Le psaume 21. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc bien sûr, tout ce que Jésus vient de leur dire avec le signe de Jonas, pour eux, c'est absolument incompréhensible. Parce qu'il n'est pas encore ressuscité, ils ne peuvent pas le deviner. Mais en revanche, l'effet est important lorsque Jésus va être ressuscité. Les disciples et toutes les personnes qui étaient présentes, s'ils ont été interpellés par cette question du signe de Jonas, devraient pouvoir faire le lien entre les deux et donc être amenés à se convertir. Et pour nous, qui sommes 2000 ans après, évidemment, ça a son importance. Et c'est un signe important.